Alors, aujourd'hui, eh bien, nous avons à la régie Laurent, qui remplace pour cette émission Nicolas. Voilà. Et nous avons dans l'enceinte du studio Anne.
Bonjour à tous.
Pour sa chronique théâtrale.
Théâtre Passion.
Et nous avons également, alors comme invité, pour un superbe spectacle que j'ai découvert à la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, dans le 11e à Paris. C'est à côté d'une belle église, hein, l'église Saint-Ambroise, je crois.
Oui, il me semble bien, oui.
Bon, même si on n'est pas religieux, on peut apprécier la beauté des églises.
Hein, l'architecture, bien
voilà.
Sûr.
Et donc, puis j'aime bien le nom de la rue, la Folie Méricourt, ça me plaît.
Et le sympathique directeur du théâtre, Frédéric Gray.
Ah, tu le connais?
Ah,
tu l'as vu? Oui,
très sympa,
oui, d'accord.
Il fait beaucoup de choses intéressantes.
Bon, voilà. Donc, Jean-Luc Giorneau, qui interprète le bouquiniste Mendel et d'autres personnages, d'après la nouvelle de Stéphane Zweig. Oui. Voilà. Il est accompagné de son épouse Nicole Giorneau. Voilà. Et c'est tous les vendredis et samedis à 19h30 jusqu'au 29 novembre.
Absolument.
Voilà. Et alors, en deuxième partie d'émission, nous attendons une comédienne, alors que j'ai découvert hier. Figurez-vous, je l'ai découverte hier, mais c'est Monsieur Moa Abaïd qui va vous la présenter. Elle s'appelle Josiane Karl et elle interprète une dame qui a plus de 100 ans. Alors la comédienne ne doit pas, elle n'est pas jeune, hein. Elle n'est pas jeune, mais ça n'empêche pas d'être dynamique, virulente. Ouf, et elle a une gouaille incroyable. Donc elle interprète une centenaire qui est une tueuse en série et féministe. Voilà. Bon, c'est un drôle de personnage, mais elle joue, faut le reconnaître, elle est incroyable. Voilà. Donc, tenez, monsieur Giorneau, vous pourrez regarder. Alors, est-ce que j'ai imprimé l'article là? Oui, j'ai imprimé l'article, je vais vous le donner tout à l'heure. En espérant que monsieur Moa pourra arriver, parce qu'en ce moment, il y a une manifestation pour la Palestine.
Voilà. De toute façon, il y a des manifs tous les samedis. Ça, c'est sûr.
Oui, bon, voilà. Écoute, on va commencer. Alors, j'ai découvert, parce que je pensais à des illustrations musicales, et j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce, mais c'est que de la musique sur le site de La Folie Théâtre. C'est vous qui avez préparé la bande-annonce ou c'est...
Oui, c'est nous. C'était un peu sur les conseils de Frédéric Gray.
Oui.
Qui préfère qu'on n'entende pas les voix, parce qu'il dit que les gens, en fait, ne font pas attention, ou quand l'annonce passe, vous voyez, dans le hall, il y a toujours un brouhaha, il y a toujours... qui fait que les voix peuvent perturber, et donc ils préfèrent ce format où on voit les acteurs qui parlent en de petites séquences.
C'était volontaire, alors.
Voilà.
Ah, d'accord, ok. Bon, mais c'était une musique de quoi, alors? Une musique d'ambiance
Je connais plus le nom du compositeur, c'est une trouvaille de mon metteur en scène qui aime bien la musique contemporaine.
Ah, d'accord.
La musique contemporaine, et donc il fouille comme ça pour trouver des séquences sonores.
C'est, disons que ça fait une musique d'ambiance. Alors je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de passer la bande-annonce ou... Bon, j'ai trouvé que c'était joli comme ambiance. Mais de mon point de vue, entendre des voix, ça aurait été plus... Oh là là. Alors, c'est quelqu'un qui cherche à rentrer, excusez-moi. Nous sommes en direct, hein, n'est-ce pas? Donc, non. Est-ce que quelqu'un qui a essayé de m'appeler pour dire qu'il est à la porte? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre en sourdine.
Bon. Mais voilà, pour en revenir à la bande-annonce, c'est un peu une exigence de Frédéric. Quoi. C'est ce type de format qu'il préfère.
Voilà. Ah oui. Oui, c'est du bon, ben c'est pas grave. Donc, alors, par contre, j'ai vu que Stéphane Zweig était un grand amoureux de Mahler.
C'était un grand amoureux de plein de gens et de plein de
au niveau musical, hein, je dis bien, au niveau musical. Ouais. En fait, il est plus proche de Mahler que de Wagner. Hein.
Oui,
faut quand même le dire. Oui. Hein. Wagner, c'est un peu spécial. Hein. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, peut-être que de temps en temps, on mettra un peu de musique, mais bon, justement, du Mahler. Ouais. Voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Ce bouquiniste Mendel, d'après Stéphane Zweig, mais vous avez adapté le récit de façon très fidèle, parce que moi, j'ai lu le texte de la nouvelle. Et en fait, quand j'ai su que cette nouvelle allait être mise, allait être adaptée, j'ai tout de suite décidé d'aller voir. Parce que j'ai lu la nouvelle, et je l'ai lu dans un fascicule d'œuvres complètes de Stéphane Zweig. Oui. Parce que c'est pas une nouvelle très connue.
Non, elle est. Moi, je ne l'avais jamais vue ni entendue adaptée au théâtre.
Ah ben c'est ça, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est pas évident d'adapter au théâtre une nouvelle parce que c'est pas fait pour le théâtre
non.
Déjà.
Non.
Ah, le tout n'est pas assez prêt. Mais compte tenu du fait qu'il y a un personnage qui est extrêmement marqué, qui a du caractère, c'est un personnage hors du commun.
Oui.
En fait, rien que pour ce personnage, il mérite d'être mis en scène. Voilà, c'est ce que je pense. Et vous, en tant que comédien, alors, il faut quand même le dire, vous n'avez pas vécu toute la vie comme comédien.
Non. La plus grande partie de ma vie antérieure, c'était d'être pédiatre.
Voilà. Oui, alors c'est difficile de trouver la relation entre le fait d'être pédiatre et de devenir comédien. Mais il doit y avoir un fil conducteur.
Si vous voulez tout savoir, c'est un peu l'envie ou la jalousie qui m'a conduit à devenir comédien. C'est-à-dire que mon épouse a commencé à faire du théâtre, on habitait Paris à l'époque, dans les ateliers de la ville de Paris, et je suis allé la voir à la fin de chaque année. Et quand j'ai vu ça sur scène, je me suis dit, je veux faire pareil. Voilà, j'ai toujours eu un rapport avec les gens par l'intermédiaire de la musique et de la chanson. Principalement, mon maître à penser, si je puis dire, c'est Monsieur Brassens, qui a un certain rapport avec vous. Et donc voilà, je chantais, j'ai appris la guitare pour m'accompagner, pour chanter Brassens. Et donc, j'avais ce rapport avec les amis, la famille, d'être devant un public. Donc, j'étais pas très intimidé par la scène, on va dire. Mais voilà, le théâtre, quand même, je me suis dit, j'y vais, voilà. Et donc, ça c'est il y a 25 ans, maintenant.
Ah oui, quand même.
Oui.
Donc, maintenant, vous êtes un comédien affirmé, finalement, on peut dire.
Mais je laisse le public et je vous laisse responsable de cette...
Et donc, les enfants que vous avez, il y a 25 ans, ils viennent peut-être voir votre spectacle. Qui sait?
Samedi, je vais avoir mes petits-enfants qui vont venir me voir.
Ah, d'accord. Oui, parce que, tant il est vrai que cette nouvelle de Stéphane Zweig, elle touche parce que le sujet, c'est quand même, c'est ce que j'ai écrit dans un article là, que j'ai publié. Là. C'est un personnage qui est un peu en voie de disparition.
Ah, pour sûr.
Pour sûr, un bouquiniste.
Oui.
Voilà, parce que des bouquinistes, certes, il y en a encore, on en voit sur les quais. Mais moi, de mon vivant. Je ne vais pas parler de ma mort, hein, parce que je ne suis pas encore morte. Mais et ni fantôme, voilà. Ni fantôme. Mais j'ai vu des librairies fermées. J'ai vu des librairies fermées et des petites librairies, etc. Et chaque fois, c'est comme si j'avais un coup au cœur. Parce que pour moi, la lecture, comment dire, j'ai l'impression d'être née pour lire. Voilà. Pour moi, la lecture, c'est primordial. C'est aussi primordial qu'un bout de pain. Voilà. Enfin, ça, c'est chacun son goût. Hein.
Oui, enfin, non, je vous comprends.
Je peux pas me passer des lettres. J'en vois tout le temps. Pour moi, la lecture, c'est primordial. Voilà. Et donc, dans cette histoire, il est question d'un homme qui, finalement, a bâti sa vie autour de son amour, de la bibliographie. Voilà. Et tant et si bien qu'il a une prodigieuse mémoire, il est devenu un expert, et que tous les étudiants, tous les savants font appel à lui dès qu'ils cherchent un livre, etc. Mais c'est un homme qui, finalement... il est très pauvre, en fait. Il n'a pas d'argent. Il ne vit que pour sa passion, la bibliographie. Il n'a même pas de boutique. Il officie dans un petit bureau où il s'est installé, dans un café de Vienne.
Voilà.
Et ce café de Vienne, en fait, Stefan Zweig, alors le narrateur raconte qu'il était étudiant et qu'il revient 25 ans après dans ce café de Vienne, et il y a quelque chose, une réminiscence, comme la Madeleine de Proust, qui le pousse à revenir dans ce café, et c'est le visage, la personne du bouquiniste Mendel qui revient en mémoire. Voilà.
Oui.
Et vous interprétez ce narrateur, qui a un certain âge, et vous interprétez également le bouquiniste. Et d'autres petits personnages moins importants, oui.
Bah, c'était un peu le, pour employer un mot moderne, le challenge. C'est-à-dire que c'était pas évident théâtralement d'interpréter ces deux personnages qui sont tellement différents, de pouvoir se transformer l'un en l'autre rapidement. Donc c'était un challenge, voilà. C'était l'autre challenge pour moi était de prendre cet accent yiddish que je ne connaissais, enfin que je connaissais comme ça, mais que j'avais jamais. Donc j'ai des amis qui sont d'origine, qui sont ashkénazes, et donc je leur ai initialement donné les phrases que prononce Mendel pour qu'ils me les enregistrent. Avec l'accent.
Oui, mais en même temps qu'il soit, alors il est décrit comme un petit juif de Galicie.
Oui.
En même temps qu'il soit juif, c'est pas ça qui est important en
non,
fait.
Non, mais
effectivement, ça rappelle le fait que Stefan Zweig était juif aussi, avait des origines juives.
Oui,
voilà.
Oui.
Bon, mais c'est le contexte aussi.
Oui, oui.
Nous sommes, on peut le dire, c'est que cet homme avait beaucoup de succès en tant que biographe, enfin bouquiniste, et pendant la guerre, première guerre mondiale, parce que Stefan Zweig s'est suicidé pendant pendant la première guerre, mais déjà l'antisémitisme existait déjà, c'était pas...
Oui, mais disons que Stefan Zweig, lui, il l'a vécu, subi dans les années
30-40.
Voilà.
Oui.
Et donc, il crée cette nouvelle qui se passe dans les années 14, où l'antisémitisme, il a toujours existé, mais enfin, c'était pas aussi massif que ça ne l'était à l'époque de Zweig, quoi. Voilà.
Oui.
Donc, effectivement, c'est pas véritablement le sujet, c'est pas... Le sujet,
mais,
c'est,
oui, le sujet, c'est ce bouquiniste, mais quand même, c'est à cause de la guerre qu'il a été emprisonné.
Oui, mais voilà, on va dire que c'est plus Zweig, me semble-t-il, veut mettre le doigt sur la bêtise de la guerre.
C'est ça. Voilà. Il parle de la guerre.
Voilà.
Il parle de la conséquence de la guerre, c'est que ce bouquiniste a été mis en prison. Hein, c'était quelqu'un qui était ailleurs, c'était un rêveur. Donc il n'a rien compris, il ne savait même pas qu'on était en guerre.
Absolument.
Il a été mis en prison parce qu'il a été soupçonné d'être un espion. Pourquoi ?
Voilà.
Parce qu'il correspondait avec des libraires français et anglais et on était en pleine guerre.
Voilà.
Donc il a été pris pour un espion. Alors si ça se trouve, peut-être que ça existait, hein, qui sait ? Mais, à la suite de ça, c'était sa déchéance, etc. Mais c'est très émouvant, hein, c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais c'est la façon dont il raconte aussi, Stéphane Zweig. Il est assez un grand créateur d'ambiance aussi.
Ah bah oui.
Hein, il y a toute l'ambiance. En interprétant le narrateur, vous suivez le texte de Stéphane Zweig, mais c'est vrai. Rien qu'en vous écoutant ou rien qu'en lisant la nouvelle, on rentre dans ce café. On est en train de chercher. Lui, il essaie de se souvenir, mais qu'est-ce que... Et c'est toutes ces ambiances qui reviennent et qui font de ce spectacle quelque chose de très sensible, d'intime aussi. Il y a de l'intimité là-dedans. Enfin, je veux dire d'intime, parce que c'est des moments... c'est des moments précieux quelque part. Et puis en rentrant dans ce café là de Vienne, on a encore la nostalgie. On se dit dans ces vieux cafés où on pouvait trouver des personnages comme ça et les gens pouvaient être gentils. Enfin, c'est humain, quoi. On retrouve de l'humanité qu'on a peut-être un peu perdu parce que avec les portables, les téléphones portables, avec ceci, cela, on n'est plus. Les gens sont plus. Tout le monde est pressé. C'est plus du tout le.
C'est pas plus du tout. Vous voyez, avant de venir, là, j'ai pris un café.
Il y a encore des petits cafés qui sont sympas,
voilà,
bien sûr,
avec des serveurs. Adorable, qui engage la discussion, je pense que si on fait attention et si soi-même on entretient ça, on peut recréer à tout moment ce genre de choses.
Il faut le vouloir, comme
voilà,
vous dites.
Sûr.
Mais n'empêche que, comme vous dites, il faut le vouloir.
Oui.
Et il faut le cultiver, si vous voulez.
Voilà,
ce sont des moments qu'il faut cultiver.
Mais c'est comme l'amour, hein.
C'est comme l'amour. Ben,
oui.
Vous
voyez, enfin, toutes ces bonnes choses, où son jardin, enfin, il faut cultiver, voilà, cultiver pour récolter. Voilà.
Et moi, je trouve ça extraordinaire, c'est de pouvoir avoir accès à cette vision de la vie, hein, grâce à une nouvelle d'un auteur. Parce que ça ouvre des horizons,
C'était aussi un choix de mise en scène. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, la mise en scène, elle est très épurée pour que, justement, on ne soit pas parasité par autre chose et que l'émotion soit vite là, quoi. Vous voyez, on s'est attaché à ça, à faire en sorte que le spectateur soit par les sons, par l'attitude du bouquiniste, par l'attitude du narrateur, au plus près de l'émotion. Voilà.
Oui, voilà, oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi j'ai vu le spectacle il y a une quinzaine de jours.
Oui.
Est-ce que vous avez opéré des changements depuis ou vous avez comment ça se passe ?
Non, on n'a pas opéré de changement. Vous étiez à la première, donc à la première.
J'étais à la première.
On est un peu traqueux quand même. Et donc là, maintenant, on prend un peu plus d'assurance, donc on est un peu plus dans la relance, dans l'énergie, on va dire. Voilà. Mais on ne devait pas être trop mauvais lors de la première, parce qu'on a eu quand même beaucoup
de bons
papiers. Voilà, c'est ça.
Voilà, voilà. D'accord. On va mettre un petit peu de malheur, mais juste au début ou peut-être la fin. Parce que c'est Voilà, nous sommes en panne de récepteurs de.
Alors, je. Voilà, donc je te propose qu'on passe un extrait très court, puisque c'est un lead.
Oui.
Donc ça dure entre 6 ou 3 minutes.
D'accord.
Donc j'ai pris à moitié du temps, 3 minutes, c'est un lead donc de Gustav Mahler qui est interprété par Christa Ludwig et c'est avec le Philharmonia dirigé par Otto Klemperer, c'est quand même une référence et on peut écouter.
Ensuite, si ça vous dérange pas, comme ici c'est la spécialité, peut-être que in live vous pourriez nous dire un petit extrait de la pièce.
D'accord.
Bon, vous n'êtes pas dans les conditions de la scène, mais juste pour voilà. D'accord. Bon, ben, Laurent vient de me dire que je ne dis pas assez, que vous êtes notre invité, monsieur Jean-Luc Giorno. Voilà. D'origine.
Moi, d'origine tunisienne, mais le nom est effectivement italien, ça c'est clair. Donc, il y a eu des. La Tunisie a été un creuset, des influences de toute l'Europe se sont installées. Enfin. L'Italie, la Turquie, etc., la Grèce, enfin voilà. Donc c'est de là que je viens. Mais je ne connais pas mes ancêtres italiens. Mais j'ai voulu apprendre l'italien. Et quand je suis en Italie, les gens me parlent italien, ils me parlent...
D'office.
Et quand j'aime beaucoup l'Italie, et à Rome, quand je me promène, les gens que je croise dans la rue, c'est mes oncles et mes tantes de visage. Donc il doit y avoir.
Il y a des réminiscences.
Ouais, il doit y avoir quelque chose.
Ouais, c'est comme les plantes. Hein, voilà. Elles retournent dans leur terre et tout à coup elles.
Voilà, exactement.
Oui, moi d'accord. Mais moi j'ai vécu ça aussi. Bon. Alors, Bah oui, je disais peut-être. Alors, c'est une spécialité de l'émission, c'est que on demande aux invités parfois de dire un peu du texte in live. Mais c'est comme vous voudrez.
Oui, oui, d'accord.
Bon, ben. Vient d'arriver dans le studio également un autre invité. J'ai plus mon article, tiens, en fait.
Je l'ai pas lu du coup.
Bon, là, je vais vous le donner. Antoine Herbez.
Absolument. Bonsoir. Voilà. Enfin, bonjour.
Bonjour. Enfin, peu importe.
Peu importe.
Antoine Herbez, qui est le metteur en scène et comédien dans la pièce Mamie. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion hier quand je suis allée chercher mon billet. Il m'a dit on dit Luger. Et
absolument.
Moi, j'ai dit, et dans la pièce, j'ai entendu, on dit mamie Lugère.
Oui, parce que c'est un peu, c'est un peu le truc de cette mamie qui se nomme mamie Lugère. En fait, on l'a appelée mamie Luger. Enfin, on en parlera après, mais on l'a appelée Luger, je l'ai appris en travaillant sur ce texte. Hein. Le Luger, c'est l'arme nazie. C'est un pistolet très particulier avec une crosse spéciale. Enfin bref, et du coup Luger quoi, l'allemande. Et donc on dit Luger. Et puis elle, comme elle a dû voir écrit Luger sur son pistolet, elle a prononcé ça Luger. Et puis voilà.
Ah voilà. Bon. Donc on dit. Alors je sais même plus maintenant. Du
Luger.
Coup,
Luger.
On dit Luger.
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 Luger. Oui, en allemand. Voilà.
Voilà. Donc Antoine Herbez qui joue dans la pièce. Mamie Luger, qui est en ce moment au théâtre de l'Essaillon, que connaît Jean-Luc Journeau, et qui est joué le vendredi, le samedi.
Et le samedi à 19h.
À 19h.
Ceci jusqu'au 1er novembre.
Jusqu'au 1er novembre.
Donc on a encore tout le mois d'octobre, là, une bonne partie de septembre, en effet.
D'accord.
Voilà.
Voilà. Ben, nous y reviendrons.
Yes.
Et donc, je vous conseille d'aller voir le bouquiniste Mendel, mais évidemment. Eux, c'est jusqu'au 29 novembre.
On aura du mal.
Jusqu'au 29 novembre.
Vous pouvez, tandis que nous, on pourra.
Très bien.
Voilà. Donc, ben, on va écouter un petit extrait. Alors, vous le situez où ça
se
passe?
Oui, c'est au début du spectacle où le narrateur parle de sa première rencontre avec le bouquiniste Mendel. J'avais été introduit auprès de lui par un camarade un peu plus âgé que moi. Je faisais à l'époque des recherches sur Mesmer, médecin, magnétiseur, encore peu reconnu de l'école de Paracelse. J'avais beaucoup de mal à me documenter. Les ouvrages des spécialistes étaient tout à fait insuffisants et le bibliothécaire auquel je m'étais adressé avec une naïve confiance m'avait répondu d'un ton bourru que ce n'était pas son affaire que de m'indiquer les sources bibliographiques. Alors le camarade en question me parla pour la première fois de Mendel. « Il sait tout et te procurera tout et te dénichera le livre le plus introuvable. C'est un original. C'est le dernier survivant de la race antédiluvienne des bouquinistes. » Nous nous rendîmes ensemble au café Gluck. Et c'est là qu'était assis ce Mendel, vêtu de noir, le visage embroussaillé, les yeux cerclés de lunettes, et tout en lisant, il se balançait comme un buisson sous le vent. Nous nous approchâmes, il ne nous regarda pas. Il restait assis, et son buste oscillait comme celui d'un bonze. Derrière lui, accroché à une patère branlante, son vieux manteau noir, très fatigué, les poches pleines de fiches et de revues. Mon ami toussa très fort pour annoncer notre présence, mais Mendel, ses grosses lunettes contre son livre, ne remarqua rien. Enfin, mon ami frappa sur la table avec la même énergie qu'on frappe à une porte. Alors Mendel se redressa, remonta machinalement sur son front ses lourdes lunettes d'acier, et sous des sourcils grisonnants et broussailleux, deux yeux étranges nous fixèrent.
Bravo. Ah, voilà.
Mmh.
Bravo. Oui, mais tout ça, c'est l'art de Stéphane Zweig. Hein. Ah oui, oui, c'est un conteur, un conteur superbe. Et oui. Et donc, vous, Jean-Luc Journeau, vous avez découvert cette nouvelle, et vous le dites dans une note d'introduction, parce que vous vous souvenez d'une personne que vous avez connue et qui était aussi d'origine juive.
Voilà. Quand j'étais donc pédiatre à l'hôpital, mon maître à l'époque s'appelait Roger Perelman, et à l'époque où il n'y avait pas d'internet, où il n'y avait pas Wikipédia, où il n'y avait pas tous ces modes de recherche, c'était un bouquiniste Mendel. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait une culture livresque immensissime, qui était reconnue dans le monde de la pédiatrie.
Immensissime, ça existe, ça. Non, mais c'est plaisant, toi.
Voilà. Et donc, il avait tout lu, on disait, vous voyez, dans le domaine de la pédiatrie, j'entends. Mais c'était un homme très cultivé aussi.
Ah,
et,
ouais.
Et donc, voilà, quand je suis tombé sur cette nouvelle, ça a fait écho, parce que j'aimais beaucoup cet homme-là. Et cet homme-là a fait le chemin inverse de Mendel, si je puis dire, puisqu'il avait vécu un an à Auschwitz, il avait survécu. Et c'est après cette histoire qu'il était devenu médecin et qu'il était devenu patron. Quoi, voilà,
de... Ah oui, quand même. Ouais. Ouais.
Donc ça faisait écho, vous voyez, avec cette histoire. Et je me suis dit, tiens, voyons ce qu'on peut en faire. Voilà.
Ah, voici un autre personnage qui rentre. Ici, on est plein de personnages. Comme dirait Nicolas Choquet, nous sommes des créatures radiophoniques. Si vous voulez rentrer, monsieur Moir.
Oui, merci.
Bonjour. Voilà.
Bonjour, bonjour. Ben, j'attendais dehors.
Ah,
ben, d'accord.
J'ai appuyé sur le bouton. Voilà.
Il est rentré.
J'attendais. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Vous passez.
Ah. Voilà, voilà.
Et donc, presque en hommage à cette personne que vous avez connue, enfin, en tout cas, c'était un flash.
Voilà. Je ne peux pas dire que c'est un hommage, mais ça a fait tilt et je me suis dit, ça serait marrant, quoi. Voilà.
Oui, et puis surtout, alors quand vous interprétez, entre guillemets, ce petit juif de Galicie, c'est pas péjoratif, hein. C'est même Stefan Zweig qui parle de lui comme ça.
Oui.
C'est pas mal parce que bon, c'est pas caricatural, mais enfin bon, c'est vraiment le vieux bouquiniste avec son châle, vous créez vraiment un drôle de personnage. Ouais. Vous créez, ouais. c'est pas quelqu'un de, il sort de
mon imagination.
Oui, votre imagination.
Parce qu'il est décrit, enfin, dans la nouvelle, il n'est pas décrit avec précision. Enfin,
on donne des éléments.
Et moi, je l'ai vu comme ça, donc j'ai réussi à me faire des cheveux comme ça. Enfin, ouais, donc.
Il doit y avoir des photos d'ailleurs.
Oui.
Pas mal, ouais.
Ouais. Donc, et puis, bon, mon metteur en scène m'a dit. Garde-moi ça, et il est super. C'est exactement ça. Et donc je l'ai gardé, quoi.
Voilà. Ouais, oui. Et puis il y a aussi votre épouse qui joue donc la dame des toilettes.
Elle joue la mémoire, quoi.
Oui, elle joue la mémoire. Voilà. Mais elle est un personnage très humble dans la nouvelle.
Absolument.
C'est celle des lavabos. C'est la dame des lavabos. C'est la dame pipi, on peut dire plus vulgairement. Hein.
Exactement.
Et bien, c'est une des seules personnes qui ont connu Mendel. Voilà. Quand il revient de la prison où il a été enfermé pour soupçon d'espionnage, c'est la seule qui l'accueille, cette dame pipi,
hein,
et qui a gardé beaucoup de respect et même d'amitié pour cet homme.
Oui.
Voilà. Et votre épouse, enfin la comédienne Nicole Giorno, je la trouve fantastique, hein, dites donc.
Je lui dirais.
elle est vraiment... Elle est incroyable. Hein.
Vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de faire du théâtre.
Oui. Oui, oui. Franchement, c'est dommage que je ne sois pas là, mais ce n'est pas grave. il faut aller la voir, hein, dès que... Hein, Monsieur Moua, il faut aller voir.
Oui.
Je vous conseille d'aller voir le bouquiniste Mendel à la Folie Théâtre.
Très bien.
Voilà.
J'y penserai.
Voilà, non, franchement, ça vaut le coup. Je ne sais pas, parce qu'elle aussi, elle invente un personnage.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Hein,
oui.
Qui raconte, donc, hélas, la déchéance de Mendel. Et puis, qui est comme une apparition d'humanité, de douceur dans cette histoire. Mmh. Moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que... Oui.
Je peux poser une petite question ?
Oui.
Je voudrais savoir où ça se situe et vers quelles années à peu près ?
Ben, ça se situe à Vienne.
Ah, c'est à Vienne, hein, oui, c'est ça.
À Vienne.
Oui, oui, oui.
Et ça se situe, on va dire, quelques années avant la guerre de 14-18. On peut dire que sans doute ça commence à la fin du 19e siècle.
Ah, d'accord.
Et ça se termine après la Première Guerre mondiale. Voilà.
Voilà.
Sur cette trentaine d'années. Quoi.
Mmh. Oui, une époque qu'a connue Stefan Zweig. Vraiment, il l'a connue. Voilà. Hein. Il y a même de la correspondance avec Romain Rolland. Enfin, il a vraiment connu. Il en a souffert aussi, parce que c'est pas évident, hein, d'être quelqu'un qui est... c'était un Européen converti, Stefan Zweig. Ouais. Alors, voir les Allemands, les Français, les Anglais se battre, c'est un crève-cœur, quoi. Enfin, franchement, il a vraiment vécu. Et cette nouvelle, il l'a écrit beaucoup plus tard, je pense, peu d'années avant de se suicider, ouais, d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on parle souvent du suicide de Stefan Zweig. Peut-être qu'il pensait qu'il avait fini sa mission, son temps. C'est peut-être pour... Mais en fait, on peut pas résumer Stefan Zweig à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui avait un amour de l'humanité quelque part, et qui était curieux de tout, qui avait une grande générosité. Enfin, c'est étrange, mais c'est un des auteurs allemands. D'origine juive, enfin bon, c'est pas, il y a pas que ça, qui est encore énormément lu aujourd'hui. Hein. Stéphane Zweig, difficile d'y échapper, comme on dit. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Bah, c'est un sondeur de l'âme humaine, hein. Et il était très apprécié de Sigmund Freud. Hein. C'était.
J'ai même une correspondance entre Sigmund Freud et Stefan Zweig aussi. Ah oui, avec Romain Rolland, avec d'autres, etc. C'est sa profondeur aussi.
Ouais.
C'est sa profondeur. Mmh. C'est pour ça, moi, j'y retourne. J'y retourne, je vais le lire. Mmh. Et je suis surprise parce que je vois qu'il y a beaucoup de comédiens ou de metteurs en scène qui ont le désir de l'adapter au théâtre. Ouais.
Oui,
c'est
vrai que le choix de ce bouquiniste, c'était cette rencontre, et que bon, il y a beaucoup de nouvelles qui sont jouées et rejouées, le joueur d'échecs, les 24 heures de la vie d'une femme, lettre à une inconnue, Amok, enfin bon, c'est des grands classiques, alors, qui sont repris, pas jamais les mêmes mises en scène, etc. Mais voilà, le bouquiniste Mendel.
Mais c'est une grande première, alors, le bouquiniste de Mendel.
On peut dire, je crois, oui.
Ouais,
Mais j'ai osé.
Vous avez osé, vous avez bien fait. Bien fait, puis le metteur en scène aussi.
Ouais.
C'est une mise en scène dépouillée, certes, mais très, très efficace.
On avait déjà travaillé ensemble en 2018.
Alors, Laurent va me disputer. Le nom du metteur en scène, vous devez l'avoir.
C'est Yves-Patrick Grima.
Voilà, Yves-Patrick Grima. Voilà.
Non. Et avant ça, on avait adapté une nouvelle d'Herman Melville qui s'appelle Bartleby. Bartleby, elle est très connue à cause de cette phrase qui revient à être motif, c'est « je préférerais ne pas ». C'est l'histoire d'un notaire qui embauche une personne comme ça, et cette personne va petit à petit refuser de faire quoi que ce soit, avec toujours cette phrase « je préférerais ne pas » et mettre ce notaire dans une incompréhension totale de... Voilà.
Alors, Laurent, à la régie, me fait des gros yeux. Non, je plaisante.
Aucun gros
Alors, tu peux passer un peu de Mahler ?
Alors oui, on a encore ce magnifique disque, hein, Mahler, avec des
c'est
leaders.
C'est pas Mahler, hein, c'est Mahler.
C'est Gustav Mahler. Alors ça, c'est Mahler, c'est la prononciation à l'allemande. Oui. Nous, c'est ici Gustav Mahler. Alors on a toujours ce disque magnifique, hein, avec Christa Ludwig, et donc on a des leaders. Et là... J'ai choisi, j'ai choisi. On est obligé de choisir le plus court, voilà. Oui. Et il y a que du bon, donc tout va bien. Ich habe eine Glühwein-Messer, voilà. C'est un peu c'est le titre de ce lead par Christa Ludwig de Gustav Mahler.
Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien.
Alors non, c'est ça c'était Julius Bocarn. Alors on va revenir quand même à oui, je voulais vous faire la surprise. Donc on va revenir au 1, c'est le 1 normalement, ça doit fonctionner.
Ben bravo Mahler, hein. et la chanteuse. Hein.
Pour ses percussions au début, oui.
Oui. Bon, alors, Jean-Luc Journaud va nous faire un petit extrait pour nous donner envie d'aller voir du spectacle. Mais enfin bon, il faut y aller, il faut vraiment y aller. Alors, je vous écoute, on vous écoute.
Tous les pieds Israélites le savent bien. Grâce à ce doux balancement, leur esprit, comme l'enfant qui s'endort, échappe au monde, entre mieux par ses mouvements rythmés et hypnotisants dans la grâce de l'extase. Alors, dans ces moments, je ne vois rien, je n'entends rien de ce qui se passe autour de moi. On joue au billard, les marqueurs vont et viennent, le téléphone sonne, on réquire le plancher, on garnit le fourneau. Tout cela passe inaperçu pour moi.
Merci. Merci. Voilà, bravo. On voit bien le personnage. Donc, ça se passe en ce moment, et même aujourd'hui, tout à 19h. Ouais. Donc, c'est tous les vendredis et samedis à 19h à la Folie Théâtre.
19h30.
Ah oui, c'est vrai. 19h30 à la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt. Et ben voilà.
Jusqu'au 29 novembre.
Jusqu'au 29 novembre. Et ben il faut y aller. C'est un superbe théâtre, hein, la Folie Méricourt. Oui, hein, Anne Delalleux qui est présente.
Oui, je connais bien. Oui.
Elle connaît bien.
Sympathique, hein. Tout, c'est bon, non, on est très bien. Et ouais. Puis il y a toujours une très bonne programmation, hein, ouais. De toute façon.
Voilà. Mais écoutez, Jean-Luc Journaud, nous vous remercions d'être venu nous présenter ce beau spectacle.
C'est moi qui vous remercie
de votre accueil. Voilà. Donc je vous libère parce que je sais que vous devez répéter pour. pas répéter, mais vous mettre en condition pour le spectacle. Tu peux l'accompagner.
Oui, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors, nous allons, Monsieur Moa, Monsieur Moa.
Bonjour. Voilà, Radio Libertaire, bonjour, les auditeurs, auditrices. Donc c'est la radio où il est formellement interdit d'interdire. Absolument.
Ah bon ?
Exactement. Si vous ne savez pas,
je vous le rappelle. C'est humain d'interdire.
Non, interdit d'interdire. Ici.
Bon, d'accord, ok.
Voilà, particulièrement. Alors donc aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Antoine Herbez.
Herbez, absolument.
Bien prononcé.
Très bien prononcé.
Très bien.
Aucune interdiction là-dessus.
Et alors, c'est extraordinaire parce que quand on arrive à ce théâtre qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà ?
Essaillon.
Essaillon, voilà.
En face de Beaubourg.
Voilà, en face de Beaubourg. Et on rentre dans la salle et donc on est complètement subjugué par cette présence sur scène d'une dame d'un certain âge. Assise sur son fauteuil, les bras croisés, et qui regarde fixement le public. Ça pourrait durer une éternité. Et donc, aucune trace, aucun mouvement, rien, complètement impossible, et jusqu'à l'arrivée, donc, de Monsieur Antoine, qui arrive.
Voilà.
Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire de cette... comment dirais-je, tu es en série, quelque part.
Oui. Elle a 102 ans, hein, ce qui fait quand même un âge assez certain. Une vraie centenaire. Et elle est née en 1914, donc nous sommes en 2016, en fait, hein, et non pas en 2025. Très bien. Et elle a vécu, en effet, tout le siècle, tout le XXe siècle. Et cette femme, elle s'est défendue. Surtout de la violence faite aux femmes, parce qu'elle s'est fait agresser, violer, tabasser,
mépriser.
Alors, c'est une histoire vraie, c'est une fiction, hein, néanmoins, parce que c'est d'après un best-seller de Benoît Philippon, qui est un roman noir qui s'appelle Mamie Luger, pareil. Qui est extrêmement savoureux, le roman. Et c'est Josiane Carle, la comédienne, qui a décidé d'adapter ce livre. En fait, elle l'a lu. Elle est stéphanoise, hein, elle habite Saint-Étienne. On est très amis, tous les deux, depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'elle a lu ce roman. Elle a dit, Comme elle m'a dit, j'entendais les personnages parler en lisant le roman. Elle me dit, je veux le jouer. Voilà. Elle est allée à la pêche au droit d'auteur, parce que c'est ce qu'il faut faire, bien entendu. Et elle a su que Benoît Philippon, l'auteur, signait son livre dans une grande librairie à Saint-Étienne, juste à côté de chez elle. Elle lui a sauté dessus, ils sont tombés amoureux, et hop, ça s'est fait comme ça. Elle a eu les droits, et elle a adapté elle-même, elle a écrit elle-même ce texte.
Bravo, voilà. Bravo.
Et donc ensuite, elle est venue me chercher, par amitié, pour que je la mette en scène, Et puis l'idée m'est venue de faire les deux. Et pourquoi, non pas par, comment, égocentrisme, c'est possible, hein, qu'il ne l'est pas dans les comédiens, mais néanmoins, il y avait une espèce de cohérence, en fait, entre ce flic, ce metteur en scène et l'acteur. Parce que, en effet, je mets Mamie Luger, ce personnage, sur scène, à attendre tout le monde, finalement, le public et puis moi-même, l'interrogatoire, parce qu'il s'agit en fait avant tout d'une garde à vue, parce que, oui, pour dire quand même un peu l'histoire, elle a canardé une bande de flics. Voilà, tout ça parce qu'elle était en train de protéger un couple en cavale. Bon, et moi, je suis en tant que capitaine de police, je suis intervenu, et puis bah, je l'ai arrêtée, hein, elle est en garde à vue.
Elle vous appelle Gino, d'ailleurs.
Parce que je m'appelle Ventura, capitaine Ventura, et donc elle arrive pas, elle m'appelle Lino, elle m'appelle Colombo, enfin elle me provoque aussi, hein, parce que c'est un peu son principe. Et voilà. Et donc voilà. Donc c'est une garde à vue. Et donc je me suis dit, cette femme, je la mets sur scène, parce que de toute façon elle pouvait pas rentrer dans le théâtre, ou alors il aurait fallu qu'elle soit amenée par des flics. Mais là, en l'occurrence, elle est là. Alors vous parlez de, en effet, qu'elle ne bouge pas ou à peine, et que ça dure un petit moment, que ça pourrait durer des heures. Ça a duré, non pas des heures, mais on a eu un record de 3/4 d'heure d'entrée de public dans un énorme théâtre dans lequel on a joué, et il y avait 600 places. Et c'est vrai que la pauvre est restée 3/4 d'heure comme ça. Alors pas complètement immobile, hein, je lui donne le droit, bien sûr, de regarder, mais ça a été assez intense pour elle. Et voilà. Et donc, et après je m'arrête. Je en tant que flic, je démarre mon interrogatoire, cette garde à vue dans la salle, parce que en fait, je me suis dit, le public, le metteur en scène et le personnage, finalement, vont se rapprocher petit à petit de cette femme, parce que évidemment, c'est tout sauf une salope. Elle s'est défendue, elle a subi des horreurs.
Grande féministe, d'ailleurs.
Grande féministe, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est une féministe de la première heure, c'est-à-dire que c'est une femme de 102 ans. C'est pas de la théorie, quoi. C'est du féminisme vécu, du féminisme de la survie. C'est une nana qui s'est battue, qui s'est défendue avec les armes, sans jeu de mots, mais les armes qu'elle avait. Et en fait, voilà. Et on ne peut que être en empathie avec elle. C'est ce que finalement fait le flic.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a inspiré l'auteur du livre?
Alors c'est très rigolo l'histoire, parce qu'il me l'a raconté lui-même. Il a écrit un premier, il a été réalisateur, puis il est réalisateur, et puis maintenant il écrit beaucoup de romans, justement de romans noirs comme ça. Et il a écrit un premier roman où il y avait un couple en cavale, vraiment complètement de la fiction. Et puis dans un chapitre, ce couple était recueilli par une mamie de 102 ans. Qu'on appelait Mamie Luger, etc., etc. Et il m'a raconté, Benoît, il me dit, c'est mes amis qui m'ont dit, mais cette femme, elle est géniale, il faut que t'en fasses quelque chose, développe, développe, développe. Et puis il m'a dit, alors moi j'ai pris des fiches pour pas me tromper dans les meurtres, dans les machins. Et en fait, il a, de ce chapitre, il a fait une fiction. Et c'est tout à fait son style, hein. Il a aussi l'humour de ça, Benoît Philippon.
Mais donc, dans quel but, justement, il a opté pour une centenaire?
Benoît, c'est avant tout, lui aussi, un grand féministe. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui va défendre les femmes, qui a vraiment une conscience de ça, si vous voulez. Okay. Et ce personnage-là, donc ça raconte la violence faite aux femmes, ça raconte aussi le racisme, hein, puisqu'on a, on a une histoire d'amour entre Berthe, puisqu'elle s'appelle Berthe, et un GI noir américain, qui se finit tragiquement, justement victime du racisme. Et donc, comme je dis, on raconte un peu tout le siècle, quoi. On part de 14, on va être dans les années 60-70, on va ensuite aller jusqu'en 2016, finalement.
Mais alors, donc, pourquoi privilégier le crime, justement? Qu'est-ce que ça apporte exactement?
Écoutez, je crois que, en fait, il s'agit... C'est ça qui est assez chouette, à mon avis, hein, dans ce texte, c'est que... Il ne s'agit pas d'une enquête policière, puisque finalement, elle déballe tout. Hein, donc, il n'y a presque pas de suspense, en fait, d'une certaine manière. Mais le crime, comment dire, on ne peut même plus le juger, au bout d'un moment, le crime, en fait. C'est une espèce de solution qui était la seule solution qui s'offrait à elle. Et en fait, on peut... Et bon, je ne vais pas raconter la fin, mais on ne peut même pas la condamner, cette femme. Parce qu'en fait, elle s'est battue comme elle pouvait, quoi. Elle était seule, elle n'a pas été aidée dès le départ, et elle a fait ce qu'elle a pu, en fait.
Mais c'est un peu une lutte anti-homme, quelque part.
Elle aime les hommes, elle le dit. Elle a aimé un homme plus que tout. Donc,
et elle s'est tue quand même.
Pas celui-là, pas celui qu'elle aime, mais quand même. Quand même. C'est pas une menthe religieuse, vous savez. Voilà. Non. Non, c'est une femme libre. Hein. C'est terrible à dire, parce qu'elle a tué, bien sûr. Mais c'est avant tout une femme libre pour moi.
Excusez-moi, je peux juste dire quelque chose. J'ai vu le spectacle hier.
Oui.
Elle a tué, mais elle avait des bonnes raisons de tuer.
On est bien d'accord, n'est-ce pas?
Quand même, hein, c'est pas, elle n'a pas tué pour tuer.
Ah ben non, c'est ça.
Un type qui veut la violer, je suis désolée, moi.
Bien sûr.
Moi, je le tuerais aussi.
Mais
hein.
Pareil, mais bien sûr, mais c'est évident. C'est évident, elle s'est défendue. Elle a subi des trucs horribles. Hein. Elle raconte des choses par moments très dures, très très dures. Bon, alors c'est assez drôle en même temps, hein. C'est une langue assez cocasse, parce que bon, enfin je peux le dire, mais le dernier qu'elle a tué, elle était déjà vieille, c'était un percepteur. Bon, alors elle dit oui, là j'ai peut-être un peu déconné, j'aurais peut-être pas dû, bon c'est vrai que, mais il était là, le nez dans mes affaires, un fouineur, de quoi il se mêlait. Bon, elle lui a fini, puis bon ça a été un peu difficile pour moi.
Mais d'ailleurs, il ne faut pas prendre non plus, peut-être au premier degré,
non,
hein,
c'est
moi.
Ça.
Oui.
Il ne faut pas prendre tout au premier degré.
Non.
Je pense que l'auteur a grossi un peu le portrait,
le trait,
pour justement donner un peu d'ampleur au personnage.
C'est, voilà. C'est un peu comme une fable.
C'est une fable. Elle a un côté rabelaisien, vous ne trouvez pas?
Oui, tout à fait.
Alors ça a été soutenu par quel mouvement, par exemple, féministe ou autre?
Alors, j'ai essayé de tenter de d'approcher. Bon, pour l'instant, mais j'ai vu que, par exemple, là, dans 15 jours, on a une association de, ça me fait très plaisir, là, de défense des femmes, qui viennent à 25 ou un truc comme ça dans le théâtre, ils ont réservé. Voilà, moi je me suis rapproché aussi parce que j'ai une amie qui dirige une association de violence des femmes en situation précaire au niveau de la santé et qui s'occupe de la santé des femmes en situation de précarité. Ça y est, je l'ai bien dit dans le bon sens. Et voilà, et elle est aussi très investie là-dedans, vous voyez. Ça remue quand même des choses importantes, quoi. Importantes. Mmh. Surtout en ce moment, on a de quoi quand même hurler, il me semble.
Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec les femmes immigrées, par exemple?
Pour le coup, non. On est vraiment là dans cette histoire sur un truc un peu franco-français. Elle est auvergnate et tout. Néanmoins, vous parlez d'immigration, je vais reparler du GI noir de sa vie, qui a quand même, on lui a dit, quand il s'est installé avec cette mamie, retourne dans ton pays sale négro. Voilà, ça aussi, ça raconte des choses, quoi. Quand même. Voilà.
D'accord. Et vous avez été aidé un petit peu par les pouvoirs publics?
Mais bien sûr que non.
Madame Rachida Dati.
Mais bien sûr que non.
Non, mais là, c'est tranquille, celle-là. Oui, pardon, oui. Excuse-moi.
Non, bien sûr que non. Non, c'est ma petite compagnie qui a produit ça, et voilà.
Un petit peu subventionné quand même.
Non, enfin, pas sur ce projet-là, non. De temps de temps en temps, sur d'autres projets. Enfin, oui,
d'accord.
C'est un combat, le théâtre, hein, vous savez. Le théâtre, on a deux endroits... quand on a une compagnie où on paye globalement presque pour jouer, c'est Paris et c'est le Festival d'Avignon. Voilà.
D'accord.
En gros, les deux choses que j'ai faites avec ce spectacle, dont je suis un peu maso, mais c'est pas grave. Voilà.
Je veux pas t'interrompre à moi, mais je pensais à la bande-annonce.
Oui.
Parce qu'on entend, Josiane Carle, on l'entend. Et elle n'est pas là, elle n'a pas pu venir au studio. C'est un peu dommage de ne pas l'entendre. Donc...
Je vais essayer de
mettre le... Alors, attendez.
J'espère qu'on va entendre bien, parce que...
Je fais ce que je peux, avec les moyens.
Ça aurait été extraordinaire qu'elle soit là.
Oui, voilà. Mais là, pour le coup, elle se repose la main.
Alors, attendez, je vais essayer, je mets ça là.
Madame Cavignol, vous savez pourquoi vous êtes là? Pour avoir tiré quelques coups de
l'étoile.
Ouais, peut-être. Je les ai eus à ma porte.
en face du micro.
Non, c'est toi qui me laisse finir.
Ah, voilà.
Ça fait plus de 100 ans que j'essaie de survivre et je n'entends que des phrases culpabilisantes depuis que je croupis sur cette chaise.
Vous, vous avez une dent contre les hommes, non?
Pas tous. Je me disais, mais qu'est-ce que ce diable fout dans ma cuisine? Il était noir. J'en avais jamais vu. Mais ce sont ses yeux surtout qui m'ont renversé. Pour la première fois, un homme posait sur moi un regard qui n'était ni du mépris, ni de la concupiscence graveleuse. Nous étions heureux.
Bon, faites. Quel compte. Je vais pouvoir aller taper mon rapport et rentrer chez moi.
Qui te dit qu'il y en accepte? Tu penses que je suis un monstre? Non, c'était eux les monstres.
C'était eux les monstres? Vous savez ce que veut dire tueur en série?
Ce fou voulait me séquestrer. Tu trouves toujours que c'est moi qui y allais un peu fort?
Don't you cry.
Et voilà.
Magnifique.
Ça le fait par un portable, bravo.
Oui.
Et alors, l'idée du jazz, justement, est-ce que ça a été inspiré?
Alors, dans le texte, oui. Il y a en effet Summertime qui est important par Sidney Bechet. Oui. Oui. C'était au moment, pendant la guerre, où elle rencontre son GI, et c'est le GI qui apporte cet air. Et puis après, elle le redit d'ailleurs, à un moment, Janis Joplin chante Summertime, donc on est dans les années 70. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, là c'est le metteur en scène qui parle, je vais décliner ces Summertime sur des époques différentes. Donc j'ai pris le Sidney Bechet, petit extrait hein, bien sûr, qui lui permet à elle de repartir dans son époque, dans son histoire d'amour, etc. Cette histoire de Summertime Time de Janis Joplin, je vais pas raconter, mais qui nous permet de nous relier, elle et moi, finalement. Et puis à la toute fin, là aussi je ne dis rien de plus, mais j'utilise quand même le Summertime qui est magnifique de Je vais y arriver, de Ça va me revenir, Annie Lennox, ouf, ça y est, c'est revenu, qui est beaucoup plus contemporain, quoi. Voilà. Donc on traverse aussi des époques avec cette
ère. Ça permet un petit peu de dédramatiser un petit peu l'histoire.
Oui, oui et non, parce que quelque part ça appuie aussi sur le drame parfois, vous voyez, oui, donc quelque oui. part en fait. Mais
la musique quand
mais,
même.
Mais c'est drame et en effet on rit aussi parce que le langage est très drôle et qu'il y a des langages, il y a des critiques qui me disent, oui on dirait un peu du Audiard, quelque part il y a un peu de ça, hein, c'est un peu des dialogues assez fleuris comme
assez
on dit.
Assez direct, quoi, voilà. Aussi.
Et en même temps il y a beaucoup d'émotions parce que je crois qu'en effet c'est pas une histoire très drôle qu'on raconte, même si c'est drôle sur le plateau.
Et voilà. Alors pour finir, vous avez une tournée prévue?
Alors en fait on a créé le spectacle il y a déjà quelques années, en 2021 vers Saint-Étienne, là où habite Josiane, Carla. Et puis on l'a tourné pas mal, ensuite en 2022 on a fait Avignon, depuis 2022 on l'a encore tourné pas mal, et puis là on l'avait jamais joué à Paris, donc j'ai décidé de le mettre là à Paris pendant 20 dates jusqu'au 1er novembre encore une fois. Et puis après, bah, Inch'Allah, on va voir. Voilà. Donc, c'est bon, on a encore, si on va jouer le 15 novembre à Nogent-le-Rotrou, on a déjà une date de tournée. Et puis, dont d'ailleurs, on a deux dates, en fait, deux représentations ce jour-là. Il y a aussi une scolaire qu'on joue l'après-midi avec ce spectacle. D'accord. Et ça m'intéresse beaucoup de voir des jeunes regarder ce spectacle. Ça sera la première scolaire qu'on fait.
Ça attire quel public?
Eh ben, c'est assez, à mon avis, comme ça raconte l'histoire, comme ça raconte des sujets graves, comme ça raconte la violence faite aux femmes. Qui malheureusement est quand même un bon sujet d'actualité.
Je pense.
Ouais, vraiment.
Parce que là, dans la salle, quand même, il y avait l'âge moyen.
Ouais, je ne sais pas, ça dépend. Vous savez, bon, le théâtre, malheureusement, à Paris, le théâtre, il y a beaucoup de cheveux gris, un peu comme les miens, qui vont au théâtre. Hein. Voilà, mais bon. Il y a quand même des jeunes, il y a quand même des jeunes. C'est...
En tout cas, bravo. C'était
merci beaucoup.
Une
merci.
Très bonne réussite.
Merci, merci.
Alors, une illustration musicale
oui.
avec ce disque amené par Laurent, Les Indignés.
Voilà.
Et donc, comme nous avions affaire à une dame très indignée, Mamie Luguer, n'est-ce pas nous allons écouter.
Eh bien, nous allons écouter ce que nous avons écouté tout à l'heure en quelques secondes, eh bien c'est toujours Julos Bocarne. Alors c'est très court, hein. Une minute et demie, mais on peut passer à un autre titre si c'est possible, hein, si Moa le souhaite. En tout cas, 1 minute 32 de Julos Bocarne.
D'accord.
Ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton Chianti est italien, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes figues sont turques, tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Norvège, ton chantier vient de Liège, Eulenspiegel vient de Dame, du Zaïre vient ton tam-tam, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent de Bangui, tes noix de coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta vodka vient de Russie, ta bière de Rhénanie, tes oranges d'Australie, tes dattes de Tunisie, ton Gulfstream vient des Antilles, tes pommes de Poméranie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ton djembé vient de Douala, ton gingembre vient d'Ouganda, ton boubou vient de Tombouctou, tes avocats du Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton ginseng vient de Chelipeng, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger.
Juste à côté d'elle, on parle de Josiane Carleton.
D'accord.
Voilà.
Donc elle est bien entourée.
Elle est bien entourée, oui, oui. Oui
très
oui.
bien, parfait.
Ben, oui, oui, oui. Moi, j'ai trouvé, alors, j'interviens, mais je sais que c'est ton invité, hein, moi.
Oui.
Mais, comme j'ai vu...
C'est interdit d'interdire.
Voilà. Oui, oui, oui. je ne peux pas non plus marcher sur les plates-bandes.
Non, 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 pas de plates-bandes.
Mais je voulais dire, moi, j'ai vu le spectacle hier et... ah, mais j'ai trouvé qu'elle était belle. Parce que elle est belle parce que elle a vraiment une tête
pas commune.
Non mais
elle est vraie quoi. Elle est
oui
vraie.
Mais
elle est authentique.
Elle a une belle tête qui raconte des histoires.
C'est ça. C'est
et
ça.
Je me dis un peintre aurait été très heureux de faire son portrait.
Complètement.
Ah oui, oui, oui.
Mais parce qu'en fait, elle est aussi, là, je parle de la femme, la comédienne, Josiane Carle, elle est aussi comme ça. C'est vraiment quelqu'un de très authentique dans la vie, très vrai, très juste, très...
Direct.
C'est direct. Et puis c'est une nana qui est un peu... Elle a, par exemple, elle a milité... Alors, c'était pas le MLF à l'époque, c'était le MLAC, le mouvement... Alors, c'est pour l'avortement et la contraception. Mmh. Mouvement... Elle, c'est pas...
C'est pas MLF, non, c'est encore
Non,
chose.
C'était le MLAC à l'époque.
Ah, hein, le MLAC, d'accord.
Le MLAC, voilà. Mm. Donc oui, c'est quelqu'un aussi qui...
Libération de l'avortement.
Ouais, alors c'est pas libération ou la légalisation peut-être de l'avortement et de la contraception, je sais plus. Enfin, je sais plus le L, enfin peu importe. Et donc c'est quelqu'un aussi très engagé comme ça. Et puis nous, on se connaît depuis très 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 longtemps. C'est ce que je raconte en général à la fin du spectacle, parce que je sortais du conservatoire de Paris. C'était un de mes premiers spectacles à Marseille. Et Noces de sang de Lorca, là aussi un beau
contrat. C'est un beau texte,
un beau
ça.
Texte, magnifique texte. Et Josiane était dans la distribution et on s'est rencontrés là-dessus. Et en fait, c'est vrai que depuis maintenant 30 ans, on se connaît, on est amis, ce qui n'est pas si fréquent dans ce métier, parce que souvent dans ce métier, on est amis comme ça, pour la vie, pendant le temps du spectacle, puis après, pouf, il n'y a plus rien.
Il paraît qu'il y a beaucoup d'égo qui se promène.
Un tout petit peu, tout petit peu. Et puis, et en fait, on est restés amis. Moi, je la connais, enfin, je suis allé plein de fois chez elle, etc. Et on n'avait pas vraiment retravaillé ensemble. Je l'avais mise en scène, si, dans un spectacle il y a quelques années. Et puis là, elle est venue me rechercher. Et c'est la première fois qu'on rejoue ensemble depuis 30 ans. Donc, c'est vrai que c'est super. On est très complices, si vous voulez.
Oui, oui, ça se sent aussi, oui,
ouais.
Pendant le spectacle. Et puis, franchement, quel jeu. Parce que, comment dire, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que Bon, elle est un peu virulente, elle est castagne,
oui.
Hein, un
au
petit
début,
peu.
C'est,
hein.
C'est le problème.
Mais en même temps, c'est vrai, moi, j'ai cru voir ses yeux qui brillaient quand elle parlait de son amour.
Bien sûr.
Elle réussit à passer de un peu la flambeuse, un peu... oula, elle est...
On laisse pas des coudres, comme on
voilà.
dit.
Voilà. Ouais. Et puis, elle devient très humaine tout à coup. Il y a de la douceur qui l'envahit. C'est le fait d'une grande comédienne.
Oui,
absolument. Ah, franchement, absolument. Mais elle n'est pas très connue, ce qui est dommage.
Non, mais je vous dis, c'est des carrières comme ça. Il y en a beaucoup de comédiennes et comédiennes comme ça.
Oui.
Qui ont travaillé toute leur vie dans des théâtres. Il n'y a pas que Paris dans la vie, quoi. Enfin, il n'y a pas que Paris en France, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'elle n'a jamais... elle a pratiquement jamais travaillé à Paris, Josiane. Donc, mais elle a travaillé toute sa vie.
Et là, oui.
Le texte, est-ce qu'il est appelé à être traduit?
Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Je ne pense pas. Enfin, j'en sais rien. Elle serait au courant, puisque c'est elle l'adaptatrice. Donc, je ne sais pas.
Par exemple, en anglais, en espagnol.
Oui, bien sûr.
Ça pourrait.
Et je suis sûr que Benoît Philippon, l'auteur, serait ravi. Parce qu'il a vu trois fois le spectacle. Hein, donc, il est très, très derrière nous. Et c'est vachement sympa, d'ailleurs.
Et peut-être même en arabe.
Et bien, absolument.
Ah, bah oui,
absolument.
Dans ces pays où la femme
ça
a du mal à
ça raconterait quelque chose. Hein, quand
en Algérie, oui.
Absolument.
Et ailleurs.
Ça serait intéressant.
Mais il faut dire qu'elle porte le personnage.
Ah bah c'est sûr.
Complètement.
Ça va être difficile après. Il faut trouver la...
Oh bah ça se trouve, il faut trouver la comédienne algérienne qui représente ça.
Ça existe.
Une Oum Kalsoum.
Non mais c'est vrai.
Voilà, comédienne, voilà.
Ben, on va peut-être repasser un autre indigné. Ah non, je l'ai repris, non ? Tu l'as toujours ?
Alors, je l'ai toujours, là, je l'ai rangé, mais j'ai un autre disque sur la platine avec Michel Barbier.
D'accord. Et ensuite, Anne Delalleux fera sa petite chronique théâtrale. Voilà.
Présente-moi, madame.
Anne Delalleux. Mais tu l'as déjà, tu la connais déjà.
Oui, mais je suis un peu du nom.
Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le vois triste de nous voir nous battre en son nom. Assis dans son éternité, moi je vois un Dieu bienveillant, toujours enclin à pardonner toutes nos chamailles d'enfants. Je ne le vois pas ordonner à le prétendu lieutenant de s'en aller assassiner Charlie, Bruxelles, Nice, Bataclan et ses chrétiens persécutés, alors qu'ils suivaient son chemin, des petites filles enlevées pour satisfaire de bas instincts. Non, je ne le vois pas créer Ève inférieure à Adam. Lui, il voulait les voir s'aimer, donner la vie tout simplement. Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le vois triste de nous voir nous battre en son nom. Pourquoi obliger ton voisin à partager tes convictions, qui t'a donné le droit divin de m'imposer tes opinions? Si j'ai raison, toi tu as tort. Mais si j'ai tort, tu as raison. Est-il bien de notre ressort de décider ce qui est bon? Moïse, Mahomet ou Jésus étaient de bonne volonté, mais comme ils doivent être déçus de voir leurs propos déformés. Est-ce la poule qui a fait l'œuf? Est-ce l'œuf qui la poule a fait? C'est un mystère toujours neuf. S'il existe, Dieu seul le sait. idées préconçues. Et c'est l'orgueil qui nous entraîne. La vraie lumière est au-dessus. Nous parlons d'une même voix, d'amour, de paix, de tolérance. Mais hélas, au nom de la foi, que de colère, que de souffrance. Liberté, liberté chérie, que de crime commis en ton nom. Nous voulons tous le paradis, mais c'est l'enfer que nous créons. Mais c'est l'enfer que nous créons.
Alors, nous venons d'écouter extrait de l'album, du CD Vibrance. De Michel Barbier avec Patrick Pernet. Au nom de Dieu, entre parenthèses, la leçon de Charlie, de Michel Barbier.
Magnifique. Et une dernière magnifique annonce, donc, on vient d'écouter l'émission sur Mamie Luguerre par Benoît Philippon avec Antoine Herbez. Et donc, c'est.
Et Josiane Carle.
Et Josiane Carle, bien sûr, du 29 août au 1er novembre.
Tous les voilà, vendredis et samedis à
19h
au théâtre Essaillon de
au
Paris.
Au théâtre Essaillon.
Essaillon, qui est en face de Beaubourg.
Voilà, 4 dans le 4e arrondissement.
Pierre Rollard, je crois.
C'est 4
rue
ou 6
Pierre Rollard.
Ou 6.
Ou 6. Je ne sais plus, peut-être 6, oui. De toute façon, on ne peut pas le louper. Oui,
oui, c'est, oui, oui, c'est à côté du Café de la Gare, ouais, quand même.
Voilà, exactement. C'est, ça jouxte.
Rue Pierre Rollard.
Ça jouxte le Café de la Gare.
Tout à fait.
C'est en face de Beaubourg.
Voilà,
exactement. Et en première partie, nous avons reçu Jean-Luc Journaud pour... le bouquiniste Mendel, qui se joue actuellement à 19h30, tous les vendredis et samedis, à la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, dans le 11e à Paris. Voilà. Maintenant, place à Anne Delalleux.
Eh bien, merci, merci Evelyne. Alors, moi, je vais vous parler d'une pièce que j'avais vue, c'est la dernière pièce que j'ai vue à Avignon, qui s'appelle Le Radeau de la Méduse, et qui va se jouer, qui commence d'ailleurs aujourd'hui, et qui se jouera jusqu'au 3 janvier, à la Comédie Bastille. Alors, Le Radeau de la Méduse, c'est quoi? C'est le fameux tableau de Géricault qu'il a peint en 1818. Et nous avons affaire là à une conférencière. De toute façon, elle a ses problèmes personnels. Elle téléphone à son ex en l'invectivant de tout. Et là, pour l'instant, elle essaie de nous jauger, de nous juger. Elle n'est pas très intéressée, elle fait bof. C'est un peu une Madame Marguerite, une cousine de Madame Marguerite, tu vois, le style. Et alors, elle nous pose des questions, bien sûr, sur le radeau de la Méduse. Dans quel musée est le radeau de la Méduse, d'ailleurs? Dans quel musée, messieurs?
Au Louvre.
Très bien, bravo.
Je sais, je l'ai vu, je l'ai contemplé même, pendant longtemps.
Voilà. Ah ben oui, t'as pas coulé avec, mais enfin c'est bien.
Non, je l'ai contemplé.
Oui, oui.
Oui, j'avais pas coulé
et
avec,
donc,
quand même.
C'est drôle parce qu'elle le détaille. Alors, c'est non seulement, c'est une comédie, c'est une conférence vraiment très drôle et très, pas virulente, non, mais où elle nous engueule tout le temps de toute façon. Et elle dit des choses très vraies sur le tableau, des choses d'ailleurs que j'avais pas remarquées sur le personnage de ceci. Elle dit, au fait, vous en voyez-vous des femmes sur le radeau? Non, naturellement, ils les ont virées dans la flotte. Allez, hop, voilà, des choses comme ça. Donc c'est une chose pendant une heure et quart de bonne humeur, de savoir aussi, parce que bon, c'est pas n'importe quoi non plus. Elle fait vraiment sa conférence. Et c'est donc le texte est de Alexandre de Limoges et c'est joué par Anne Cangelossi. Et donc ça sera jusqu'au 3 janvier 2026 à la Comédie Bastille.
Et de quel jour? Quel jour?
Alors, il y a plusieurs jours, figure-toi. Pour l'instant, septembre, c'est le lundi à 19h, le mardi 21h et samedi à 15h. Après, il y aura des séances supplémentaires. Le 30 septembre, le 1er décembre, le 2 décembre à 19h, et pendant les vacances scolaires...
Il faut aller sur le site
De la Comédie Bastille, voilà. Allez sur le site de la Comédie Bastille, vous y trouverez pas mal de choses.
Alors, je crois que le radeau de la Méduse est en réfection. Hein? Non, enfin...
T'as des flyers? T'as des flyers?
Non, non, on n'a pas de flyers.
Mais au Louvre, hein, il serait en réflexion. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de le regarder pour l'ouvrir.
Et puis le regarder, oui. Et puis vraiment, c'est là où elle nous a signalé certaines petites choses, incohérences. Et c'est vrai que, bon, après, quand on connaît vraiment la vraie histoire et comment ça se termine aussi, pour certains survivants, c'était pas extraordinaire du tout. Mais ça, c'est vraiment une chose à voir. J'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps, Aux Poches Montparnasse, Petite misère de la vie conjugale, deux textes de Balzac. Et ça raconte quoi? Ça raconte le mariage un petit peu arrangé entre Caroline et Adolphe. Et donc, leur quotidien, on va dire, leur philosophie du mariage, comment on est aussi au 19e siècle, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là aussi, c'est très drôle, c'est très bien mené, parfaitement bien joué. Ça, moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est mis en scène par Pierre-Olivier Mornas qui joue Adolphe et Alice Darceau qui joue sa femme Caroline. Et non, mais vraiment, c'est très marrant. Et c'était la mise en scène, l'assistante à la mise en scène, et Émilie Chevrillon, alors, qui était notre Madame Marguerite, très grande comédienne aussi. Donc là, c'est à voir si vous voulez vous marier ou pas. Allez voir cette pièce. Vous allez passer au moins 1h15 de bonne rigolade aussi. C'est vraiment très 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 bien à voir aussi.
Oui, mais c'est alors pour les romantiques, hein, non.
Oui, non, pas vraiment.
C'est pas romantique.
Voilà.
Mais enfin, c'est pas
tu
grave.
L'as
hein.
Tu l'as eu le.
Oui, mais je l'ai vu la pièce.
Ah, et alors, oui, t'as
mais j'ai trouvé que c'était pas romantique.
Non, c'est pas romantique. Ben, ça n'est pas romantique.
Ça t'a pas envie de se marier, quoi, tout simplement.
Non, puis surtout avec une merdeuse. Excuse-moi, mais alors elle est quand même casse-pied aussi, la Caroline, hein, aussi. Elle lui en fait voir de toutes les couleurs à son Adolphe. Hein. Ah, quand même, oh, non, elle est pas.
Mais c'est Balzac qui était misogyne, enfin.
Oh, Balzac. Heureusement qu'il y avait Balzac pour écrire, parce que bon. Et j'ai vu aussi, alors comme toi, Gauguin Van Gogh, qui se joue au Lucernaire actuellement.
Hein. Oui.
Voilà, qui se joue. Moi, je l'ai vu à Avignon.
Moi, j'ai trouvé que j'ai vu donc la pièce. Alors, oui. Je vais encore marcher sur les plates-bandes
de
Pierre, Paul et Jacques. J'ai vu. j'ai vu la pièce et j'ai trouvé que. Alors, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu à Avignon et je l'ai vu à Lucernaire. Moi, j'ai beaucoup aimé la composition de William Mesrich.
Oui.
Je trouvais que peut-être est-ce qu'il accentuait trop sur le fait que Van Gogh a été considéré comme un psychotique. Je ne sais pas, mais en même temps, alors ça dépend aussi dans quel état en tant que spectatrice ou spectateur on est, mais en même temps, j'ai trouvé que il était impressionnant. Et puis, il m'a fait penser quand même à Van Gogh.
Oui.
Il est impressionnant. Et j'ai fait des comparaisons, parce que moi, j'ai vu Kirk Douglas jouer Van Gogh.
Ah oui.
J'ai vu Jacques Dutronc jouer Van Gogh. Et franchement, je trouve que William Mesrich, il a sa place parmi les meilleurs interprètes de Van Gogh.
Et il est très bien accompagné par Gauguin, Alexandre Cattez.
Oui, aussi. Mais c'est vrai que le rôle de Van Gogh... Alors, disons que le rôle de Gauguin, là-dedans, il est très bien, le comédien qui joue Gauguin, mais naturellement, c'est surtout le Van Gogh qui surprend, parce que...
C'est pas n'importe qui.
Oui, mais Gauguin aussi, c'était pas n'importe qui. Mais disons que... Ah, c'est bizarre, j'étais étonnée. Parce que je sais que... comment il s'appelle? William Zekich est en train de jouer Richard III aussi.
Oui, en plus. Oui,
aux Gémeaux. Mais il a un côté shakespearien. Mesguich, hein, William. Il a un côté... Et ça rejaillit même sur Van Gogh, un petit peu.
La pièce, elle est de David Asiou et de Cliff Payet. Et Cliff Payet a déjà écrit aussi, que j'avais vu aussi à Avignon, Madame Van Gogh. Alors là, c'est sur la belle-sœur de Van Gogh.
Je l'ai vu aussi.
Ah, c'était très bien aussi.
Oui, je l'ai vu au studio Héberto.
Oui, peut-être.
Mais il y a déjà quelques années.
Il y a quelques années, oui. Et il y avait aussi écrit Tant qu'il y aura des coquelicots. Aussi, ça, c'était une très belle pièce qu'il avait écrite. Donc, c'est au Lucernaire jusqu'au 16 novembre, du mercredi au samedi, 18h30 et dimanche 15h.
Ah oui, 18h30, oui, c'est tôt, oui, c'est très tôt. Ça vaut le détour, hein, c'est vraiment, c'est une jolie, mais peut-être c'est trop tôt pour vous. Vous ne jouez que le vendredi et le samedi.
Oui, absolument.
Donc vous pouvez aller
voir. Donc je peux aller, voilà, absolument.
Voilà.
Un autre jour, absolument.
Alors j'ai vu aussi Art, la pièce de Yasmina Reza. Je l'avais déjà vu à la création.
Ah, t'as réussi à le voir ? C'est qui l'attaché de presse ?
Ben, je te le dirai tout à l'heure.
D'accord.
Donc, et là, c'est François Morel qui s'y colle à la mise en scène, avec ses complices Olivier Saladin et Olivier Broche. Et donc, c'est un trio. Donc, c'est la pièce art, c'est sur l'amitié, c'est sur l'art contemporain aussi. Est-ce qu'on aime l'étoile blanche ou l'étoile noire de Soulages, d'ailleurs ? Bon, mais là, tout est... est-ce qu'on gardera ses amis ? Est-ce qu'on doit accepter tout ? Enfin, c'est une belle pièce sur l'amitié. Et d'ailleurs, les trois comédiens sont amis aussi dans la vie. Et je l'avais vu, oui, en 94.
Voilà. Alors, voilà. Il est 16h59.
Ah, donc, je me tais.
Et on est obligé de la boucler, là.
Alors, bisous à tous. Allez voir aussi. Bisous. Ma famille en or, aux Gémeaux parisiens, c'est très drôle.
J'espère que nous pourrons être là samedi prochain.
Oui, pas moi.
Avec Nicolas, Fabien, Moa. Et donc, un invité.
Oui. Qui a joué le Orla.
D'accord. Ah, oui. Et peut-être que moi, j'aurai aussi une invitée, Frédéric, la chanteuse. Frédéric Forgeot.
Là, c'est une reprise parce que on a, la folie, c'est autre chose.
Non, il y a beaucoup de comédiens qui jouent l'Orla. Oui. Voilà. Et bon, ben, on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs à samedi prochain.
Inch'Allah.
Bon week-end.
Merci.